Donc, je vais vous parler de deux expériences, deux musées sur lesquels j'ai travaillé. Un en particulier qui est avec deux situations totalement différentes. Le premier qui est Louvre Abu Dhabi, donc sur lequel je travaille depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et l'autre est un musée à Beyrouth, un concours qu'on a remporté l'année dernière suite à un appel, une opération lancée donc, par une association privée. Donc le premier, le Louvre Abu Dhabi, qui est une volonté politique et qui a fait l'objet d'un accord intergouvernemental. Le deuxième, une initiative privée. Abu Dhabi, un pays qui est encore jeune et qui est en train de construire un peu ses monuments et son identité. Et Beyrouth, ville millénaire, enfin on en parlera après. Ce musée Abu Dhabi est fait avec Jean Nouvel. Donc Abu Dhabi à la croisée de l'Asie, d'Extrême-Orient et qui se passe donc sur une île qui est juste en face de la ville même d'Abu Dhabi, une île encore vierge, Saadiyat Island, et où les Émirats avaient demandé à Tom Krentz, à l'époque directeur du Guggenheim, de les aider à réfléchir à un plan directeur et pour faire de cette île une destination culturelle au Moyen-Orient, en tout cas dans leur pays. Et il avait fait une sorte de casting, je ne sais pas où est le... Ah, c'est ça. Avec plusieurs architectes connus, le premier Frank Gehry pour un musée Guggenheim, Zaha Hadid pour un musée de centre d'art vivant, et Tada Wando pour un musée maritime. Donc venant proposer à Jean Nouvel de faire un projet qui à l'époque était juste un musée de civilisation, musée d'art classique. On ne savait pas qu'en parallèle des négociations se faisaient entre les deux États, donc la France et les Émirats, qui allait aboutir à cet accord du Louvre Abu Dhabi. Donc on dessine un musée d'art classique, et pour l'architecte contextuel qui est Jean Nouvel, il avait la chance sur cette île encore vierge de savoir quand même ce que faisaient ses deux voisins, donc Frank Gehry d'un côté, Zaha Hadid de l'autre, et la première idée était de faire un bâtiment en contrepoint de ces deux grandes structures, très hautes, 80 mètres d'un côté, 60 de l'autre, un bâtiment très horizontal posé sur l'eau, et de faire une sorte d'île dans l'île. Donc on a redessiné la côte, ça c'est un croquis de Jean Nouvel, et aussi cette idée de faire non pas un bâtiment, mais un lieu de rencontre et de faire une sorte de quartier. Donc le musée est une série d'une cinquantaine de petits bâtiments, chacun étant une salle, et où on allait se promener dans un espace extérieur qui allait se construire, encore une fois, comme un quartier, en référence à ces villes arabes comme une médina. Ce quartier étant recouvert par une coupole, un signe quand même important en référence à cette culture arabe, donc le dôme, qui est une forme classique de grande référence de cette architecture, et qui allait être traité donc, pour venir couvrir d'une sorte d'ombrelle ces espaces extérieurs. Et encore une fois, venir appartenir par cette expression à la culture et au lieu, et venir protéger par une grande ombre ces lieux extérieurs. Voilà le dessin final où le Guggenheim donc se faisait il y a un troisième musée dont je n'ai pas parlé, le Sheikh Zayed Museum, qui se trouve derrière et qui a été fait par Foster. Enfin, il n'est pas fait encore, le Louvre étant le premier qui est en train de se réaliser, sur le point de se terminer cette année. Donc, je disais, un petit quartier, une ville blanche, encore une fois, référence à cette architecture arabe, et chaque salle étant un bâtiment, et on se promène donc dans cette ville et on visite des espaces d'exposition temporaire, une grande salle d'exposition des espaces permanents, une grande salle d'exposition temporaire, un auditorium et tout ce qu'il faut évidemment en infrastructure pour accueillir les œuvres, un restaurant, un café et tout ça couvert, comme je disais, partiellement par ce dôme dont je vais parler un peu plus tard et qui va venir s'exprimer encore une fois de manière très contemporaine. Et créer cette pluie de lumière, ça c'est un dessin qui a 11 ans maintenant, donc c'est la première image qu'on a faite du projet. Vous allez voir dans sa réalisation qu'on a presque tenu notre promesse, et même peut-être au-delà, parce que la pluie de lumière existe maintenant dans ce lieu. On ne savait pas encore une fois ce qui allait occuper ce musée, donc toutes ces images ont été faites à l'extérieur, et vous voyez aussi qu'il y a des œuvres qu'on a voulu mettre à l'extérieur, parce que l'expérience, on voulait qu'elle se fasse aussi à l'extérieur du musée. On a posé quelques œuvres comme ça dans les espaces de promenade. Le dôme recouvre aussi une partie de l'eau, et l'eau participe évidemment beaucoup à toute cette vibration de la lumière sur les bâtiments blancs et qui traverse cette coupole. Nous sommes donc, c'est 2006, on a dessiné le projet, fin 2006, 2007, en février, on apprend qu'un accord intergouvernemental a été signé, donc Renaud Donnieu de Vabre, à l'époque ministre de Jacques Chirac, ça a commencé, en fait, les Émiratis avaient visité le musée du Quai Branly, c'est comme ça qu'ils ont décidé de confier cette esquisse à Jean Nouvel. Donc la partie française d'un côté, Émirati de l'autre, signe cet accord historique qui allait donc devenir le fameux Louvre à Abu Dhabi, avec un accord d'un milliard, enfin, dont la presse a beaucoup parlé à l'époque, et qui a fait donc l'objet ensuite d'une grande exposition où tous les architectes se sont réunis. Sarkozy est venu poser la première pierre, donc il y a plusieurs gouvernements qui se sont succédés depuis, parce qu'effectivement, la vie de ce musée et en tout cas la mise en œuvre de ce projet a mis du temps. Je passe très rapidement la polémique, en particulier sur l'idée d'envoyer des œuvres dans un pays qui est quand même exposé, ou en tout cas, et un climat surtout, parce qu'il y fait très chaud, on est sur la mer, enfin tout ce qu'il faut pour faire peur aux conservateurs, l'eau, la poussière, le soleil. Bon, alors rassurez-vous, on s'est entouré des plus grands experts dans tous les domaines, et on a eu la chance d'avoir quand même les moyens qu'il fallait, en tout cas au niveau de la maîtrise d'œuvre, pour construire ce projet et faire en sorte que toutes les hommes et les œuvres soient dans les meilleures conditions. Je montre cette image parce que celle-là, c'est celle du musée avant, sans savoir ce qu'il allait devenir. Un an plus tard, donc, avec l'Agence France Muséum, donc, qui se forme, l'Agence France Muséum, ça s'appelle le Louvre à Abu Dhabi, mais en réalité, c'est un musée universel, comme le Louvre avait cette vocation première. C'est un musée universel qui couvre donc de l'Antiquité à l'art contemporain, avec la participation de 12 musées français qui vont du Louvre à Pompidou pour l'art contemporain, en passant par Orsay pour le 19e, Cluny pour le Moyen-Âge, etc. Mais c'est aussi un musée de transcivilisationnel, on va dire, parce qu'on couvre aussi la partie asiatique, donc Guimet y participe, les arts premiers avec le Quai Branly, l'Afrique, l'Europe, l'art islamique, etc. Donc il y aura un parcours chronologique et en même temps un croisement, en fait, de ces différentes civilisations qui vont se faire le long de ce parcours. Bref, donc l'Agence France Muséum refait le programme, on redessine le projet, et en réalité, il est totalement différent, mais vous voyez sur cette image qu'au fond, il est exactement le même. On a tout redessiné, tout changé dans les proportions, mais en tout cas, le concept qui était donc cette ville-quartier a absorbé parfaitement cette flexibilité. J'ai parlé un petit peu du dôme. On l'a promené un peu dans Paris, simplement pour vous donner une petite échelle. Là, il est posé sur la cour carrée, et c'est une coïncidence parce qu'on a fait ça bien après l'avoir dessiné. Mais en tout cas, les quatre piliers, il est posé que sur quatre piliers qui sont cachés dans les bâtiments. Il fait 180 mètres de diamètre, et les quatre coins de la cour carrée sont exactement à l'emplacement de ces quatre piliers. Alors, Jean Nouvel avait déjà travaillé sur la la réinterprétation de la culture arabe de façon contemporaine, donc 30 ans plus tôt avec l'Institut du monde arabe et ses fameux moucharabiers. On a repris le thème du moucharabier à une autre échelle. Et bien sûr, tout ça dicté par des contraintes climatiques très importantes, donc sous surveillance de tous ces ingénieurs, où ils allaient nous déterminer donc les zones où il fallait plus ou moins d'ombre, par exemple ici où on se promène, de lumière quand on est au-dessus d'une salle d'exposition temporaire pour amener la lumière naturelle dans les salles. Et donc on a mis en place des tas d'experts et en particulier des ingénieurs très pointus qui ont mis au point un algorithme particulier pour calculer justement ces ouvertures dans le dôme et pouvoir le rendre d'une part constructible. C'est déjà un enjeu de l'avoir très plat comme ça, parce qu'un dôme c'est toujours plus facile de le construire quand il est plus bombé. Et en même temps performant dans sa performance climatique. Donc l'idée, c'est quand même qu'on vienne de l'extérieur d'un climat qui est quand même très chaud, qui frôle souvent les 40 degrés, et que en restant toujours à l'extérieur, parce qu'il est extérieur, on y sente un certain confort. Et c'est le cas, je peux vous dire. Alors, on a fait en même temps utilisé des moyens informatiques et empiriques. Ça, c'est une maquette qui a permis d'aller dans un ciel artificiel à Stuttgart, qui est le laboratoire le plus grand et le plus connu pour ça. On a commencé à faire les premiers essais. On a construit une maquette à l'échelle 1/33e. C'est une échelle qu'on utilise souvent pour les salles de concert, parce qu'on peut y mettre la tête et avoir une sensation un petit peu de l'espace. Donc ça, c'était pour voir un petit peu l'effet général du dôme sur place, donc avec la lumière d'Abu Dhabi. Voilà, ça c'est, et à chaque fois, on apprenait des choses nouvelles. Par exemple, dans cette maquette-là, on s'est rendu compte qu'une chose que les ordinateurs n'avaient pas calculée, malgré tout leur moteur de recherche, c'est la lumière latérale qui vient. Là, c'est Jean Nouvel et Cheikh Sultan. Donc, la lumière latérale qu'on avait complètement sous-estimée. Donc, on a redensifié toute cette partie. À chaque fois, on faisait donc ces différents tests. Et enfin, on a fait aussi un test à l'échelle 1. Donc ça, c'est 1/100 du dôme. Ça fait quand même 15 mètres par 15 mètres qu'on a mis en situation réelle sous le soleil d'Abu Dhabi, et où on a aussi remesuré l'effet de la pluie de lumière. Alors, on s'est rendu compte combien la poussière qui était là a contribué finalement à la matérialisation de cette lumière. Très importante, on s'en débarrasse pas forcément. Ce dôme donc qui est composé de 4 couches en dessous qui forment la coupole et 4 couches au-dessus, et on a une structure intermédiaire qui fait 5 mètres de haut, et tout ça pèse 7000 tonnes, aussi un hasard comme la Tour Eiffel, on aime bien le dire, ou eux aiment bien le dire. On a tout dessiné jusqu'au nœud, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que dans ces patterns, on voyait toute la structure, donc ça participait aussi à l'esthétique de l'objet. 2011, il y a eu le printemps arabe et le projet qui avait commencé, donc ils avaient posé et coulé les 4500 pieux du musée. J'aime bien cette image parce qu'il y avait cette idée aussi dans ce pays qui était encore jeune de construire, ou qui n'a pas d'histoire en tout cas très ancienne, de faire une sorte d'archéologie. Donc c'est comme si ce site existait depuis toujours. Il est resté comme ça pendant un an, et on voit toutes les traces du musée, comme si elles avaient été là depuis toujours, qui émergeaient du sable et de la mer. Donc c'est une vue depuis ce prototype. Ça nous a permis aussi de voir la façon dont il se comportait avec le sable et l'eau. Les façades, donc la ville blanche, elle est faite aussi d'un matériau très contemporain, qui est un béton de fibre de très haute performance et qui permet de faire des modules très importants et qui donc qui sont à peu près qui varient entre 25 et 30 20 et 25 mètres carrés entiers. Donc c'est souvent des modules en deux ou en trois dimensions qui viennent exprimer ou construire ces volumes-là. Rapidement le programme, donc l'accord intergouvernemental dont je parlais porte sur 6000 m² d'exposition permanente, 2000 m² d'exposition temporaire, un musée des enfants, et ensuite, bon, ça c'est un bâtiment qui est un bâtiment de conservation et toute la séquence d'entrée, un auditorium, un restaurant et un café. On a eu la chance de travailler non seulement sur l'architecture extérieure, mais les aménagements intérieurs, et en particulier les salles et la muséographie. Donc on a dessiné jusqu'aux vitrines, y compris d'ailleurs aussi une ligne de mobilier spécifique pour le Louvre à Abu Dhabi. Je vous expliquais ce musée des civilisations qui allait donc des mondes anciens jusqu'au monde moderne. Ça vous montre un peu l'idée de la séquence de ces salles, qui sont traités en fait comme de la ville extérieure, qui est un peu cette ville dans laquelle on se promène. On rentre, dès qu'on rentre dans les galeries, on a un sentiment un peu de noblesse, c'est comme si on rentrait dans un palais, donc il y a un esprit un peu palatial qui est donné à chacune de ces salles, et à chaque fois qu'on traverse une salle, on passe par un passage qui nous permet de voir toujours l'extérieur. Donc il y a toujours cette conscience de l'espace extérieur qui est toujours présent dans cette visite. Chaque salle est différente dans sa proportion, dans sa hauteur, dans sa lumière. Et elle est traitée avec des matériaux au sol, des tapis de pierre, au plafond, des verres qui sont superposés, où toute la technique est cachée derrière. Je ne vais pas aller dans les détails, on pourrait faire une conférence uniquement pour ça, sur ça. Le bronze, qui est un matériau qu'on introduit pour cercler les sols en pierre, parce que c'est un sol qui doit pouvoir être modifiable, accessible en tout cas, et qui se retrouve dans les vitrines et parfois dans des salles spécifiques. Je vous parlais des œuvres extérieures. On s'est rendu compte, quand les conservateurs sont venus, ils nous ont dit c'est plus possible de mettre des mosaïques dehors, des statues, c'est interdit maintenant, même si elles existent dans les églises du monde entier. Et donc finalement, on s'est plutôt orienté vers des commandes contemporaines pour la partie extérieure. Deux artistes déjà, et j'espère d'autres après. Le Jenny Holzer, artiste américaine, qui intervient sur trois murs gravés, donc où elle va graver dans ces murs des textes. Un texte cunéiforme, un texte arabe et un texte français de Montaigne, et Giuseppe Pennone, donc artiste italien, qui a fait un travail en collaboration avec la manufacture de Sèvres et qui vient installer donc une intervention, une céramique dans des vitrines, et un arbre ici qui va dialoguer avec le dôme, avec des miroirs comme ça qui sont insérés et qui vont se confondre avec cette lumière. Il y a un pavement ottoman aussi qui vient de Damas, qui sera là, et une œuvre de Rodin qui est l'homme qui marche sur une colonne. Voilà, donc le musée est amené aussi à s'enrichir par des œuvres extérieures monumentales. Je vais passer comme ça, sans commentaire, les images du chantier, ce chantier assez pharaonique qui a commencé donc en 2011, s'est arrêté, mais a recommencé en 2013 et qui se termine a priori, tout le monde l'espère, avant la fin de l'année, de cette année. Voilà, ça a été une grande émotion de voir cette première pluie de lumière sur les bâtiments, et je peux vous dire que c'est à chaque fois un grand plaisir. On ne voit jamais la même chose en fonction de l'heure du jour ou du jour de l'année. Voilà. Deuxième sujet, toute autre expérience, toute autre situation. Nous sommes à Beyrouth, un concours d'architecture donc, qui est lancé par une association privée qui s'appelle APIL, l'Association pour la préservation de l'art au Liban, qui a récupéré une collection du musée du ministère de la Culture et qui lance un concours d'architecture pour des architectes libanais, que je suis aussi. Donc ce n'est pas c'est un projet qui n'a été fait sans Jean Nouvel, donc à titre personnel. et dans une ville que je connais bien, puisque j'y ai vécu mes 20 premières années. Ville, comme tout le monde le sait, millénaire, qui dont les sous-sols contiennent une nombreuses civilisations, de la civilisation phénicienne, grecque, romaine, perse, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer dans les couches de cette ville qui a été démolie et reconstruite 7 fois selon la légende. Une ville qui aussi a fait l'objet d'une grosse spéculation immobilière qui en a malheureusement fait une ville des jardins disparus. Je n'ai pas montré une photo de Beyrouth au début du siècle, mais c'était une ville où il y avait beaucoup de jardins. Je dis ça parce que vous allez comprendre le sujet et le site dans lequel ce musée se pose est un site tout à fait exceptionnel. Il se situe au croisement de 2 grands axes qui sont la route de Damas, qui, comme son nom l'indique, relie Beyrouth à Damas, mais au-delà de ça, c'est une route qui a été qui relie de façon plus large le monde arabe à la mer, donc qui traverse donc jusqu'à beaucoup plus loin le monde arabe. D'une part, donc je disais, et au croisement avec une autre ligne ici que tous les Libanais qui ont vécu la guerre connaissent, c'est une ligne de démarcation où Beyrouth était séparée entre l'Est chrétien et l'Ouest musulman. On est vraiment ici, à cette intersection-là, en face du musée national. Le musée national est ici. Il y a une série de musées, juste avant de finir, qui se déroulent déjà là. Donc le musée national, notre site ici. On est aussi dans un site qui appartient à l'Université Saint-Joseph, qui est l'université des Jésuites. Donc il y a 2 grands campus à Beyrouth, l'université Saint-Joseph ici et l'EUB, l'université américaine, là, qui, elle, a un campus sur la mer. Eux, ils sont en plein centre-ville, là. Et dans cette séquence de musées, il y a plusieurs institutions. Beit Beyrouth, qui est un musée qui est en train de se terminer, et un musée d'histoire de Beyrouth qui est fait par Enzo Piano, quasiment au niveau du port. Donc, connaissant le site avant même de rentrer dans le programme du bâtiment, c'était d'abord une question urbaine qui se posait et c'était très important de réfléchir à ce que pouvait être le site au-delà de cette petite parcelle, parce qu'il nous était donné juste une partie de ce site, mais on ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce que pouvait être cette intervention. Et l'idée, c'était quand même de faire non pas un bâtiment, mais un vrai territoire urbain et culturel où les gens allaient venir se retrouver et un espace de rencontre, finalement, lié à l'art. Résumer en croquis la première intervention. Donc, l'acte initial a été de creuser. Et d'y trouver l'élément fondateur et qui allait devenir l'élément important du projet, qui est un puits. En arabe, Beyrouth, l'étymologie du mot Beyrouth vient du mot bir, qui veut dire le puits en arabe. De ce puits, on va créer un jardin. Donc, je redonne un jardin à la ville qui en a perdu tant. Et ce jardin va venir avec ce socle qui va se soulever, donc se créer sur plusieurs niveaux, et le musée va venir se mettre dans ce socle épais qui va venir se soulever là et qui va se tourner le dos à la rue de Damas qui est très bruyante et s'ouvrir vers ce grand jardin. Pour ponctuer ce territoire artistique, culturel, en contrepoint de ce puits et de ce trou, on est venu planter un signe important, urbain, qui allait marquer ce territoire et que j'ai appelé le campanile, qui est un signe dans lequel qui va proposer des espaces complémentaires aux espaces du musée. et qui va venir récupérer, il y a tout un jeu bien sûr avec l'eau qu'on va récupérer, qu'on va stocker en haut et qui va devenir aussi un signe symbolique, un phare dans cette ville aussi où il y a beaucoup de clochers, de minarets, enfin, et qui vient s'inscrire dans cette série un petit peu de signes verticaux. Le musée se développe donc par une succession de paysages variés et qui viennent se prolonger sur les toits donc de ce rez-de-chaussée, sur le toit de musée et continuer dans ce campanile avec une double hélice d'escaliers. On y monte par des ascenseurs, on y redescend à pied. Il y a un belvédère tout en haut avec l'eau qui est stockée. Et des espaces, des cubes de 12 par 12 qui peuvent accueillir différents programmes. Et ce sont des espaces complémentaires qui peuvent ensuite être développés plus tard. Toute la partie basse étant la partie toute la circulation du musée. Un autre élément du programme important dans ce musée, à part les deux classiques programmes de salle d'exposition temporaire permanente, c'est un espace de performance donc qui se trouve à ce niveau-là, donc tout en bas, et dont on a proposé, dans cette ville aussi, où il est très agréable de se promener à l'extérieur, donc dans le prolongement de cette salle, il y a un amphithéâtre qui double donc la capacité de cette salle et on pourra faire des performances qui peuvent être vues et de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, une partie de ce jardin accueille cet amphithéâtre-là. Bon, tout ça, c'est toutes les matières dont on s'est inspiré et ces fameuses dalles karstiques qui sont gravées par l'eau et qu'on va utiliser pour habiller le socle du musée, la végétation qui va donc encore une fois en faire de ce lieu un lieu populaire, agréable, où les gens viennent pas forcément pour entrer dans un musée, mais qui viennent y prendre simplement du plaisir et vont rencontrer, j'espère, des œuvres. Donc, excusez-moi. Donc l'entrée, comme je vous disais, se fait par le en face du musée national. Là, c'est une photo qui est prise depuis le musée national. Et le campanile devient, dans son expression architecturale, comme l'Aleph de Borges. Aleph, entre parenthèses, qui est la première lettre de l'alphabet phénicien, arabe et hébreu, et devient une fenêtre sur la ville. Donc il y a toute cette charge symbolique de ce signe vertical. Quand on rentre dans le musée, on a cette succession de niveaux où on a la vue sur le jardin et puis une réflexion de du jardin sur le toit. Ça, c'est toutes les inspirations qui font que le musée, les références connues des campaniles, des puits, des tours de vent, etc. Et cette tour qui devient symboliquement une tour de lumière, d'art, de savoir, parce qu'il y a une bibliothèque devant. Et dans son expression, c'est la dernière image que je vous montre, qui est faite donc en terre cuite émaillée et qui vient prendre des reflets changeants du ciel et de la lumière en fonction du temps. Voilà.